Histoire au Quercy. L'histoire de notre diocèse racontée par Étienne Beau.
Paul Chevrier, curé de Saint-Louis à Vichy, par les hasards de l'histoire placé donc près du monde dirigeant, était très apprécié. Tous ces gens qui fréquentaient sa paroisse, tous ses officiels, et il était très apprécié également, et surtout sans doute du nonce Monseigneur Valerio Valeri. Chaque soir, à l'occasion d'une réunion de prière à Saint-Louis, il prenait la parole en fin d'après-midi, et cette réunion était de plus en plus fréquentée. Ainsi, le chanoine Chevrier, qui était épiscopable, comme on dit, depuis 1938, est devenu évêque de Cahors à 55 ans par la grâce, si on peut dire, de Monseigneur Valerio Valeri, et il est sacré dans sa paroisse Saint-Louis le 21 novembre 1941 en présence de Monseigneur Gerlier, primat des Gaules, du nonce apostolique, des ministres, du préfet et de Madame la Maréchale. Il arrive à Cahors le 4 décembre, c'est ce jour de son installation au cours d'une grande cérémonie dans sa cathédrale. C'est le moment de présenter davantage sa personnalité, de faire son portrait. Il est peu probable qu'il ait souhaité ce nouveau service. Mais son devoir d'obéissance, qui correspond tellement à son tempérament, a fait qu'il a accepté, sans maudire en quelque sorte, cette dignité. À la différence, nous l'avons vu, d'autres, de certains de ses prédécesseurs. On a souligné sa distinction, son allure. Elles sont très réelles, sa piété aussi. Ce qui le caractérise beaucoup, c'est la réserve de son tempérament. C'est un homme qui était ennemi de toute parole inutile et qui avait une véritable aversion pour le langage convenu. On raconte qu'il ne prononça pas un mot pendant tout son voyage de Vichy à Cahors. Il était certainement fort timide, mais ce timide intimidait beaucoup, précisément. D'autant qu'il avait un tempérament assez caustique. S'il parlait peu, il avait souvent des réflexions à l'emporte-pièce qui ont pu décourager certains de ses interlocuteurs ou les désarçonner. Son regard était clair et doux, et il paraissait surtout, dans la seconde partie de son épiscopat, un peu perdu dans un rêve intérieur. Je cite un de ses collaborateurs, puisque j'ai eu la chance présenter Paul Chevrier à la tête du diocèse, de pouvoir interroger des gens qui l'ont bien connu et qui l'ont apprécié. Un regard clair et doux qui semblait voir au-delà des êtres et des choses. Mais sous cet extérieur très impassible, il y avait un cœur aimant et très attentif aux autres. Sa devise était « simul mecum », c'est-à-dire « travailler avec moi ». Son genre de vie était extrêmement simple et on peut même dire qu'il avait un tempérament monastique. Il puisait beaucoup de réconfort dans le silence et la contemplation. On peut dire également que le fond de son caractère était certainement un certain pessimisme, pour ne pas dire un pessimisme certain. Il portait un regard très attristé sur le monde. Cela est dû sans doute, encore une fois, à son expérience de la guerre où, en première ligne, il avait vu tant d'épreuves et tant d'horreurs. Regard attristé aussi devant les désastres de la guerre de 40 et l'effondrement du pays. Voilà, au fond, comment on peut caractériser le caractère du nouvel évêque de Cahors, qui arrive dans des temps, nous avons essayé de le montrer, extrêmement difficiles. Un diocèse qui est un modeste département rural, nous le savons, un diocèse qui est essoufflé, avec une population vieillie. C'est sous son épiscopat que le creux démographique du département du Lot a atteint le plus bas niveau, avec pratiquement moins de 150 000 habitants. La reprise redémarrera timidement après 1960. Monseigneur Chevrier quittera son diocèse en 1962. Une population vieillie, par conséquent, avec certes des convictions religieuses fortes, qui avaient été ravivées par les épreuves nationales. Alors, il est certain que, on n'a pas à le cacher ou à le minimiser, comme la quasi-totalité de l'épiscopat français, c'est De Gaulle qui le dit plus tard en le regrettant amèrement, il adhère pleinement au programme du maréchal Pétain et à la Révolution nationale. On peut dire que le Quercy a pu passer pour une terre d'accueil privilégiée pour cette Révolution nationale, avec des valeurs comme ce retour à la terre, dont Mgr Giray avait déjà posé des jalons, et Mgr Chevrier voit, dans la Révolution nationale, un retour aux valeurs chrétiennes bafouées, avec un redressement, je cite, intellectuel et moral. Il est certain que le régime nouveau faisait tout pour capter l'appui de la hiérarchie catholique. Un décret avait été pris qui introduisait, par exemple, l'instruction religieuse dans les programmes de l'enseignement public. Dans ses lettres pastorales, Mgr Chevrier n'arrête pas de prôner l'obéissance au chef. Et en décembre 1942, alors que déjà des doutes s'installent dans l'opinion publique, il n'hésite pas à dire à propos de Pétain, entre lui et les autres, il n'y a pas d'hésitation pour un Français. Toute autre voix que la sienne est une voix mensongère, tout autre guide est un mercenaire. Il faut aimer ce que le chef commande. C'est sa lettre pour la fête de la Nativité, publiée le 19 décembre 1942 dans la revue religieuse du diocèse de Cahors. Il participe aux manifestations aux côtés des autorités laïques, notamment aux côtés du préfet. Ce préfet qui était Loïc Petit, un officier de marine particulièrement zélé. On sait que le régime de Vichy a beaucoup privilégié de s'entourer d'officiers de marine, beaucoup d'amiraux dans les ministères et des officiers dans les administrations. Loïc Petit, jusqu'au bout, a soutenu évidemment ce régime et il a fait tout pour gagner la confiance de l'évêque. On les voit notamment ensemble au moment de la fête de Jeanne d'Arc, même donc après novembre 1942, c'est-à-dire après le moment où les Allemands ont occupé la zone libre. L'évêque, par conséquent, n'a jamais cautionné ou envisagé avec sympathie les mouvements de résistance. Par exemple, à la demande du préfet, il a empêché la diffusion des lettres de Mgr Saliège et de Mgr Théas dans le diocèse, lettres qui protestaient, on le sait, contre le sort réservé aux Juifs. Là, il faut être également assez prudent. A-t-il empêché la diffusion de ces lettres? Le préfet lui écrit expressément « Je vous serai très reconnaissant, je cite, de bien vouloir prier les prêtres de votre diocèse de ne pas faire circuler ce document s'il se trouve en leur possession. » Et l'évêque répond, nous sommes en septembre 1942, il n'a jamais entendu parler de ces tracts. Et il ajoute, dans sa lettre, « Bien désireux de mettre l'union et la paix partout, je m'emploierai à ce qu'aucune discussion ne vienne inutilement troubler les esprits, bien qu'il soit difficile, en certains cas, de réprimer les premiers mouvements d'une pitié simplement humaine. » Donc, évidemment, on peut faire le procès à Mgr Chevrier de ne pas avoir, mais il est certain que ces lettres de Mgr Saliège et de Mgr Thias n'étaient pas parvenues jusque dans le diocèse de Cahors. Par ailleurs, ça n'a pas empêché des mouvements de bienveillance. Par exemple, un grand rabbin juif a été caché au grand séminaire pendant des années. Voilà, au fond, dans quel contexte Mgr Chevrier exerce son ministère, au moment où, à partir de 1943, le Lot va devenir un bastion de la résistance dans le sud-ouest, avec de solides liens tissés avec les populations paysannes.
Présence à Cahors, 92.5.
Le Lot devient donc un bastion de la résistance dans le sud-ouest, avec la création des maquis qui ne cessent de se développer, nourris en partie seulement, par le refus du service du travail que les jeunes gens devaient assumé en Allemagne. Ce service du travail qui avait été inventé par le gouvernement de Vichy, par Laval essentiellement, et qui avait été en quelque sorte l'objet d'une véritable duperie, puisqu'on avait dit au départ que les départs de ces jeunes travailleurs en Allemagne serviraient à libérer des prisonniers qui s'y trouvaient. N'oublions pas en effet que presque un million de soldats français avaient été incarcérés dans les stalags et dans les oflags. Et Pétain avait toujours été très soucieux du bien de ses prisonniers. Et cette présence d'un si grand nombre de prisonniers était finalement une sorte d'instrument de chantage vis-à-vis des Allemands. Lorsque les Allemands voulaient imposer quelque chose au gouvernement et que celui-ci aurait traîné les pieds, il était question toujours du sort des prisonniers et du durcissement de leurs conditions de détention. Donc beaucoup de Lotois, de jeunes Lotois, ont refusé ce départ. Certains ont rejoint les maquis. Les jeunes séminaristes étaient également concernés, comme tout un chacun qui était dans la fourchette chronologique, en quelque sorte. Ces maquis, qui étaient soutenus par une large partie de la population, parfois, pas toujours, avaient besoin d'une présence spirituelle. Et il y avait eu des contacts avec le Vatican pour que le Vatican autorise la création et le ministère d'aumôniers auprès de ces maquis. Mais pour cela, il fallait évidemment que l'évêque soit d'accord. Et Mgr Chevrier a refusé de donner cet accord. Un dominicain était venu le voir pour lui demander les pouvoirs, comme on dit. Il les sollicitait. Ils lui ont été refusés. Un épisode particulièrement tragique, c'est la mort de l'abbé Lacarrière qui était au maquis. L'abbé Lacarrière qui est mort le 3 juin 1944. Et cela, évidemment, a introduit beaucoup de troubles dans le clergé et chez l'évêque, bien entendu. On lui a aussi reproché certains silences devant les tragédies locales, les représailles allemandes, les déportations du printemps et de l'été 44. Dieu sait si le département du Lot a été atteint par tout cela, puisque il y a dans notre département 475 victimes des Allemands dans le Lot, avec le déchaînement de fureur que l'on connaît, les 540 déportés de Figeac, dont tant et tant ne sont pas revenus. Et sur ces 475 victimes, une centaine sont morts au combat. L'évêque ne pouvait pas ne pas être au courant, bien entendu. Et la preuve, c'est que dans ses lettres pastorales, je cite, il écrit ceci, au printemps 44, nous pataugeons dans le sang, demain peut-être vous, votre village et la France entière, vous serez noyés dans un flot de sang. Nous sommes dans un monde tombé hors de sa voie. Et en juillet 44, il ajoute, dans une autre lettre, et qui paraît dans la revue religieuse de Gare de Rocamadour, les peines, les souffrances, les deuils se multiplient. Leur poids et leur intensité ne sauraient décourager l'âme chrétienne. Il faut que ces jours d'épouvante soient abrégés à cause de la prière fidèle du peuple de Dieu. Le chanoine Mamoul, dont nous reparlerons dans un instant, pense qu'il est probable que Mgr Chevrier a fait une demande personnelle et discrète auprès du commandement allemand pour mettre fin à ces cruelles représailles. Cela d'autant qu'une partie du clergé lotois n'a pas affiché la même timidité et la même révérence jusqu'au bout à la personne du maréchal Pétain. Il y a en effet de plus en plus, à partir de 1943, dans le Lot, des mouvements d'opposition au régime, plus vigoureux d'ailleurs dans la région de Gourdon et dans le Figeacois que dans la région de Cahors. On peut citer plusieurs exemples. Il y a d'abord Mgr Daraki, Monseigneur Daraki. On dit Monseigneur parce que c'était, c'était ce qu'on appelait un prélat de sa sainteté, c'est-à-dire le rang d'évêque, d'où le titre de Monseigneur, mais sans ministère afférent. C'était le curé de la cathédrale de Cahors. Et un des premiers épisodes de la résistance dans la ville de Cahors a été l'assassinat d'Émilien Imbert. Émilien Imbert, qui était membre du staff des résistants et qui a été abattu, et il était question évidemment de ses obsèques. Et le préfet avait demandé à ce que ces funérailles se fassent de la manière la plus clandestine et à une heure extrêmement favorable à une petite participation de la foule de très bon matin, par exemple. Monseigneur Daraki a résisté à cette demande. Il a maintenu les funérailles à une heure, au contraire, en plein milieu de la journée. Et il y a eu une foule absolument immense à Cahors et dans les rues pour ces funérailles. Ça a été véritablement une prise de conscience au niveau de la ville et de la région. On peut citer également le chanoine Mamoul. Le chanoine Mamoul était le directeur du grand séminaire. Et de ce fait, il était particulièrement hostile au service du travail obligatoire qui lui vidait son grand séminaire. Mais au-delà de cela, le chanoine Mamoul était un de ceux qui était pour la résistance et pour la libération de la France et l'abandon de cette politique qui avait viré à la collaboration pure et dure. En effet, il y avait dans le Lot un journal qui s'intitulait « La Défense » qui était aux mains du chanoine Viguier. Ce chanoine Viguier était farouchement anti-républicain et jusqu'au bout, il a réclamé avec son appartenance chrétienne, là est la terrible ambiguïté, la lutte contre les terroristes, c'est-à-dire contre les résistants, et en agitant l'épouvantail communiste, se faisant l'adepte de ce régime qui était de plus en plus abandonné. On peut citer encore d'autres ecclésiastiques qui se sont signalés par leur activité de résistant, l'abbé Gauche à Arcambal, l'abbé Chambon qui était aumônier de la Sainte Famille à Figeac, l'abbé Cambon, l'abbé Souillery, le révérend Père Roth qui était supérieur de l'Institut missionnaire de Soussaïrac. Ces gens-là et bien d'autres ont participé concrètement à des actions de résistance. Il y a eu également beaucoup d'actes individuels de protection des Juifs au nom de la morale chrétienne. Alors l'évêque paraissait peut-être dépassé au milieu de tout cela. Mais Monseigneur Chevrier, encore une fois, par son tempérament, légaliste, a choisi le parti de la discrétion. Cela lui fut beaucoup reproché au moment de la libération, mais il n'a pas, comme d'autres, pris parti d'une manière excessive, malgré tout. Et en 1945, au moment de la libération, au moment où le diocèse retrouve une ambiance plus sereine, il a pu poursuivre son œuvre religieuse jusqu'en 1962.
Histoire en Quercy. L'histoire de notre diocèse, racontée par Étienne Beau.